En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Jean Béchler de l'Académie des sciences morales et politiques a organisé un colloque intitulé « Les ambiguïtés de la science » le lundi 3 décembre 2012 dans le cadre des entretiens de l'Académie. Canal Académie vous propose d'écouter la communication de Bertrand Saint-Cernin, membre de l'Académie, intitulée « Science et athéisme ».
Merci Madame le Président. Messieurs les secrétaires perpétuels, mes chers confrères, mesdames, messieurs, je ne rivaliserai pas d'étendue avec ce que Jean Béchler vient de nous dire. Je vais prendre un problème peut-être plus limité, qui est celui-ci. Est-ce que la rationalité scientifique implique logiquement une vision du monde dont Dieu serait radicalement absent et même chassé? Alors, cet athéisme militant peut se présenter comme une attitude compatible avec la science. Je ne parlerai pas, je prendrai un cadre un petit peu limité, celui que Sartre qualifie dans son dernier livre, « L'idiot de la famille », qu'il a consacré à Flaubert, il parle de l'athéisme chrétien. Et pour éclairer cet athéisme contemporain qui estime qu'il peut se fonder sur un certain nombre d'aspects de la science, je me limiterai à la science moderne, comme l'a fait Jean Béchler, mais je m'autoriserai de temps en temps à évoquer certains textes de Platon ou éventuellement d'Aristote, parce que je crois que cette source grecque, comme l'appelait Simone Veil, est toujours présente dans la métaphysique contemporaine. Alors, quel est le corpus scientifique sur lequel s'appuie cet athéisme qui se revendique comme fondé sur les sciences? Je crois que, sans schématisation excessive, on peut dire que sa naissance remonte aux années 1859-1872, qui sont marquées par trois événements scientifiques majeurs. La publication de l'origine des espèces en 1859, la naissance de la mécanique statistique de Maxwell et plus encore de Boltzmann, et troisièmement, la prise de conscience de la révolution que la chimie de synthèse est en train de produire. La synthèse chimique de Marcellin Berthelot est publiée en 1860. De fait, cet athéisme contemporain, qui se réclame du rationalisme scientifique, s'appuie sur les idées d'évolution, de hasard, et aussi de reconstruction par artifice de processus naturels. On peut considérer que la science moderne a donné naissance à deux philosophies des sciences très différentes. D'un côté, le positivisme, qui naît en France à la fin du XVIIe siècle, à travers l'occasionnalisme de Malebranche. Malebranche, vous savez, est un contemporain de Louis XIV, 1638-1715, Il est membre de l'Académie des sciences et il est prêtre de l'oratoire. Et ce positivisme se continue avec Auguste Comte, Ernst Mach, Maurice Blondel, Pierre Duhem, le Cercle de Vienne, etc. Autrement dit, depuis 200 ans, il se poursuit. Le second courant, le courant réaliste, a eu en France, au XIXe siècle, comme représentant principal Antoine Augustin Cournot, 1801-1877, mathématicien et philosophe. Il se poursuit au XXe siècle avec des penseurs comme Alfred North Whitehead, 1861-1947, également mathématicien et philosophe, et en France par des penseurs comme Gilbert Simondon. Mais la tradition chrétienne, dès le IVe siècle, avec les pères cappadociens, notamment Basile de Césarée et son frère Grégoire de Nice, prend parti pour le réalisme en se fondant sur un argument religieux. Puisque Dieu a créé l'homme à son image, Genèse 1, 27, il lui donne les moyens, dit Basile de Césarée dans l'Hexaéméron, qui est une description des six premiers jours de la création, comme le nom l'indique, Dieu donne à l'homme les moyens de comprendre la raison industrieuse, logos en technos, qui est à l'œuvre dans la création. Alors, Cournot laïcise ce réalisme d'essence religieuse en observant que la chimie de synthèse permet de reproduire des substances naturelles et même d'introduire dans la nature des corps et des processus chimiques que la nature n'avait pas spontanément produits. Ce qui est vrai dans l'ordre physico-chimique depuis près de deux siècles, je vous rappelle que la synthèse de l'urée date de 1828, devient depuis le milieu du XXe siècle, s'étend à l'ordre vivant avec le développement des biotechnologies et la naissance d'une biologie de synthèse qui a fait l'objet d'un colloque qui a été publié à l'Académie des sciences par Anne Fagot-Largeau. Il est important donc de discerner de quel rationalisme nous nous réclamons, du positivisme ou du réalisme, pour éclairer les sources scientifiques de l'athéisme contemporain. En effet, pour les positivistes, la description scientifique du monde laisse indéterminer les processus causaux. En revanche, une conception réaliste de la science engage davantage puisqu'elle prétend découvrir non seulement les lois, mais les causes des phénomènes. La question qui se pose est donc, est-ce qu'un rationalisme réaliste conduit à l'athéisme ou bien à l'affirmation qu'une puissance intelligente crée ou organise l'univers ou bien à une distinction entre science et religion. J'examinerai dans un premier temps les rapports entre athéisme et évolution. L'hypothèse de l'évolution des espèces, formulée par Lamarck au début du XIXe siècle et plus encore par Darwin en 1859, qui en définit le mécanisme principal comme une sélection naturelle, constitue pour l'athéisme contemporain une source majeure. En effet, l'idée d'évolution présente comme des conjectures scientifiques deux aspects essentiels de l'histoire naturelle. Premier point, l'émergence d'êtres vivants d'une complexité croissante à partir d'êtres apparu sur Terre, on le sait, ou on le date à peu près de l'ordre de 3,5 milliards d'années. Et deuxièmement, le fait que tous les vivants existants sur Terre descendent de ces premiers êtres apparus dans un lointain passé. En d'autres termes, l'idée d'évolution permet de conserver la notion de création organique sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un créateur. L'idée d'évolution et l'hypothèse de la sélection naturelle sont-elles donc nécessairement solidaires d'un athéisme métaphysique ? La réponse doit prendre successivement deux formes. Une forme historique, c'est classique, ex datis, et une forme théorique, ex principiis. Alors, historiquement, l'idée d'évolution et le mécanisme de la sélection naturelle ont été acceptés par des penseurs croyants. Ainsi, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, un petit groupe de penseurs chrétiens, des gens comme Maurice Blondel, comme l'abbé Breuil, comme Teilhard de Chardin, sont des admirateurs de l'œuvre scientifique de Darwin, et ils insistent même auprès du Vatican pour qu'il n'y ait pas de condamnation de l'évolution, de la théorie de l'évolution en tant que telle. Et on sait que l'Église catholique n'a pas condamné la théorie de l'évolution et que le pape Jean-Paul II a même dit que c'est plus qu'une hypothèse. Alors, il n'en a pas été de même de certaines églises protestantes, aux États-Unis notamment. Ainsi, du point de vue historique, la théorie de l'évolution s'est montrée compatible avec la pensée chrétienne, mais cette compatibilité historique peut être mise sur le compte de malentendus. Il faut donc examiner ce qu'il en est sur le plan théorique. Théoriquement, l'hypothèse d'une création évolutive, le terme a été choisi par Henri Bégouin en 1879 pour une petite publication qui a été faite à Toulouse, et le terme a été repris, évolution créatrice, dans un livre célèbre de Bergson en 1907. Est-ce que la théorie de l'évolution est logiquement contradictoire avec l'existence d'un Dieu créateur? Alors, on raconte que Darwin lui-même balançait entre le oui et le non. Plusieurs de ses disciples ont jugé que sa théorie excluait la vision chrétienne du monde et réfutait notamment l'idée d'un Dieu créateur et la notion d'immortalité de l'âme. Ce courant est toujours vivace. Je n'ose pas citer le nom de Richard Dawkins, que vous considérez sans doute à juste titre comme pas très sérieux, mais qui a un succès littéraire, enfin un succès de publication important. Alors, on doit, je crois, dissocier l'étude des phénomènes et des mécanismes de l'évolution tels que l'expérience les révèle et l'interprétation de l'évolution qui n'est pas entièrement déterminée par des faits empiriques. La science met en évidence le phénomène de la créativité dans la nature, pour reprendre une expression de Whitehead, mais ne fournit pas une métaphysique unique qui rendent compte de cette créativité. Historiquement et théoriquement, l'idée d'évolution et le mécanisme de la sélection naturelle ne paraissent donc pas liées logiquement avec un athéisme doctrinal, même si, historiquement, le lien existe et s'exprime fortement, déclenchant un repli vers un créationnisme idéologique. En résumé, l'histoire nous livre plusieurs interprétations de l'œuvre de Darwin et la réflexion métaphysique fait apparaître que la théorie de l'évolution n'est pas nécessairement liée à un athéisme doctrinal. En revanche, les sciences de la nature sont solidaires de ce qu'on pourrait appeler un athéisme méthodologique, à savoir l'exigence de ne faire entrer dans la science, comme l'a rappelé Jean Béchler, à un moment, que des expériences répétables et des hypothèses testables et même, si possible, réfutables. Reste à examiner si un tel athéisme méthodologique, je ne sais pas si l'expression est heureuse, conduit logiquement ou non à un athéisme doctrinal. Pour l'abbé Lemaître, l'homme qualifié ironiquement de l'homme du Big Bang par un Britannique, il y a discontinuité entre la science et la théologie. Le pape Pie XI, ayant voulu identifier l'hypothèse scientifique d'un début de l'univers dans le temps à la création par Dieu de l'univers, l'éminent physicien fit savoir au Vatican que de ces hypothèses scientifiques, appuyées sur des constats empiriques, il était impossible de passer à une conjecture métaphysique et théologique sur la création du monde. Effectivement, il fut entendu et on ne revint pas sur le problème. Pourtant, une difficulté subsiste. Comme les positivistes, que ce soit Auguste Comte, Marr, Duhem, les membres du Cercle de Vienne, de sa postérité américaine, jugent que la science ne donne pas accès aux causes des phénomènes, leurs divergences métaphysiques sont explicables et ne sont pas gênantes. De fait, on trouve dans cette tradition positiviste aussi bien des croyants, je prends parmi les physiciens quelqu'un comme Duhem, parmi les philosophes quelqu'un comme Blondel, et des incroyants comme Marr, par exemple, ou Auguste Comte. Alors, parmi les réalistes, c'est plus délicat. On trouve parmi eux des croyants, comme les pères cappadociens du IVe siècle, qui justifient le réalisme par des motifs religieux. Puisque Dieu, je le rappelle, a fait l'homme à son image, il n'est pas absurde de penser qu'il donne aux hommes les moyens de comprendre la création. Alors, c'est au XIXe siècle simplement que Cournot et plus tard Whitehead ne considèrent pas que leur réalisme est en contradiction avec l'idée d'un Dieu créateur, mais d'autres philosophes, de la biologie notamment, considèrent que la théorie de l'évolution est incompatible avec la religion et se déclarent athées parce que réalistes. Autrement dit, l'idée d'évolution ne permet pas d'asseoir logiquement l'athéisme, ni non plus, je crois, d'asseoir la croyance en un Dieu créateur. Ça laisse le problème indéterminé. Il y a un deuxième point qui est très important, c'est le rôle qu'a joué l'idée de hasard. En effet, la deuxième source du rationalisme scientifique qui se dit athée, c'est une réflexion sur le hasard. En effet, si le hasard joue un rôle dans l'univers, cela veut dire que le principe organisateur de la réalité n'est peut-être pas l'intelligence, le nous, mais un mécanisme sans finalité. Or, l'affirmation de l'existence du hasard dans le monde induit-elle un athéisme doctrinal ? Pour répondre, il faut distinguer deux aspects de la question. Avons-nous des indices d'ordre scientifique de la réalité du hasard ? Et deuxièmement, l'existence du hasard a-t-elle pour conséquence logique de nous contraindre à nier Dieu ? Alors, le hasard lui-même, au XIXe siècle, a été l'objet de deux interprétations très différentes. D'un côté, celle qui lie le hasard à l'ignorance, autrement dit, c'est la thèse de Laplace qui consiste à dire que si un démon intelligent pouvait embrasser le devenir de l'univers, à ses yeux, le hasard, la contingence disparaîtrait. Et une deuxième école, celle de Cournot, qui dit que même ce démon de Laplace, s'il voyait l'univers complètement, scientifiquement, à ses yeux également, le hasard existerait. Et la démonstration de Cournot est la suivante. Il dit, si dans l'univers, il existe deux systèmes, au moins deux systèmes de lois indépendants, leur rencontre produit des événements dont la causalité a une double hérédité, mais est génératrice d'imprévisibilité. Autrement dit, le hasard à la Cournot ne disqualifie pas la notion de cause, tout au contraire, mais elle introduit dans l'univers une notion d'imprévisibilité. D'où, alors il en donne, il reprend des exemples très anciens, connus depuis l'Antiquité, le vent souffle en tempête, il détache une tuile d'un toit, je sors de la maison à cet instant, je reçois la tuile sur la tête, et Cournot dit, la théorie de l'évolution de Darwin, c'est un exemple particulièrement frappant de rencontre de deux séries causales indépendantes, puisqu'il y a d'un côté des petites variations entre les individus, ce qui est connu depuis très longtemps, depuis Aristote, et en tout cas systématisé par Leibniz, et d'un autre côté, ces petites variations individuelles prises dans le monde environnant se traduisent par des chances différentes de survie. Autrement dit, d'une part, nous n'avons pas de raison de douter de la justesse des observations de Darwin, et l'univers dans lequel nous sommes comporte du hasard à la Cournot. Cournot était d'ailleurs un très bon analyste. Ce qui est intéressant, c'est que dès les années 1860, on trouve des analyses en français de l'œuvre de Darwin, et notamment les commentaires de Cournot sont tout à fait justes, avec quand même une restriction. Il critique Darwin, il critique l'utilisation du calcul des probabilités qui est fait par Darwin, en disant que le calcul des probabilités classiques se fonde sur l'existence d'événements logiquement indépendants, comme dans les loteries, tandis qu'il n'est pas du tout prouvé que l'enchaînement des événements biologiques soit de ce type. Alors, parmi les disciples de Darwin, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve des gens qui se sont dit athées, non pas pour des raisons scientifiques, mais pour des raisons morales, en disant, si un univers est soumis à une loi aussi rude que celle de la sélection naturelle, ça paraît incompatible avec l'idée, non pas d'un dieu en tant que tel, ni non plus d'un dieu indifférent au sort des hommes, mais peut-être incompatible avec l'idée d'un dieu d'amour. Et ce qui est très curieux, c'est que dans l'origine des espèces, à la fin du livre, dans le dernier chapitre, dans le chapitre 15, Darwin lui-même dit, au fond, il innocente, non pas Dieu, mais la nature, en disant « elle a produit des choses tellement admirables, tellement belles, que finalement, passons un petit peu sur la dureté des mécanismes ». Alors, une troisième source du rationalisme athée qui se présente comme ayant une base scientifique, c'est la notion d'artifice, comme l'a rappelé Jean Béchelaire tout à l'heure. Et notamment, une discipline qui a eu un rôle extrêmement important, c'est la naissance de la chimie de synthèse. En effet, tant que le rationalisme était étayé sur des raisons religieuses, comme chez les pères cappadociens qui disent, dans la seconde moitié du IVe siècle, ils disent, écoutez, de toute façon, on a toujours transformé la nature. Regardez l'agriculture et l'élevage. On a toujours essayé de corriger les imperfections du corps humain. Regardez la médecine. On a également essayé de modifier les imperfections morales et spirituelles des hommes. Regardez la direction de conscience. Il n'est d'ailleurs pas sûr que ni Grégoire de Nyssa ni Basile de Césarée fasse une distinction complète entre les domaines. Par exemple, chez Grégoire de Nyssa, dans le livre qui s'appelle « La création de l'homme », il y a des passages dans lesquels on s'aperçoit que ce ce père de l'Église, qui est d'une grande famille de médecins, a probablement lui aussi rencontré des cas psychiques importants. Alors, est-ce comme évêque ou est-ce comme médecin? Ça reste indéterminé. Mais enfin, ce qui est important, c'est qu'au XIXe siècle, il y a un changement de registre complet qui se fait grâce à la chimie de synthèse, c'est-à-dire on se dit, nous connaissons les causes des phénomènes, puisque nous sommes capables de reproduire par art des substances naturelles, des substances chimiques, et que nous sommes capables d'introduire dans la nature des corps chimiques qui n'existent pas. Donc, si l'homme est capable de reproduire les processus naturels, pourquoi imaginer un Dieu créateur, puisque la création se fait par les moyens humains. Alors, à cet argument, alors Cournot lui-même est probablement et même sûrement chrétien. Autrement dit, il distingue, si vous voulez, un réalisme local d'un réalisme universel qui s'étendrait à la totalité de l'univers. Pour lui, c'est ce qu'il dit de la reproduction par art des choses reste quand même partiel et limité. Alors, ce qui s'est produit depuis la seconde moitié du XXe siècle, c'est l'extension à l'ordre biologique de ce qui se produisait dans l'ordre physico-chimique avec la chimie de synthèse. Et ce qui est très intéressant pour l'irrationalisme contemporain, c'est justement de constater que est en train de renaître un certain rousseauisme pour lequel ce que fait l'homme, les modifications que l'homme introduit dans la nature seraient au fond critiquables et ce que la nature fait spontanément serait bien. Mais c'est très difficile de faire une limite tranchée entre nature et artifice, parce que si on croit que la théorie de l'évolution est juste, à ce moment-là, nous sommes tous des organismes génétiquement modifiés. Et donc, si vous voulez, il y a, au fond, la nature elle-même procède à des transformations, et ce que le génie biologique utilise, ce sont des processus que la nature, à un moment ou à un autre de son histoire, a utilisé. Et cette idée, d'ailleurs, est une idée qui n'est pas nouvelle, puisque on trouve chez saint Augustin, réfléchissant sur le miracle, saint Augustin dit « Dieu ne viole pas les lois de la nature, mais simplement il agit sur la temporalité, sur le rythme. Il fait des transformations plus rapides. » Alors, ce qu'il y a dans les biotechnologies, c'est une action, effectivement, sur le rythme temporel de l'action humaine. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait tirer? Moi, je dirais que la conclusion que je suis amené à tirer, qui n'est pas très réjouissante, c'est la suivante. Je ne crois pas du tout, comme mon ami Béchler, que l'on puisse inférer de ces arguments que j'ai indiqués, un athéisme doctrinal qui se présenterait comme la seule possibilité du rationalisme scientifique. En revanche, je crois que l'équipement métaphysique de l'espèce humaine est au fond limité, insuffisant, et donc que le problème qui se pose à nous est de savoir quel lien établir entre, je dirais, un agnosticisme réflexif ou réfléchi en matière de métaphysique issue de la science et le domaine religieux. Autrement dit, l'énigme, c'est quelle relation l'agnosticisme réfléchi entretient-il avec la foi ? Je crois qu'il n'est pas solidaire d'un athéisme doctrinal. Je ne voudrais pas citer la troisième des rêveries du promeneur solitaire dans lequel Rousseau se trouve aux prises avec ceux qui avaient été ses amis pendant 15 ans, les membres de l'encyclopédie, et alors il s'attaque à ce qu'il appelle les missionnaires zélés de l'athéisme. Alors il veut dire par là que... Alors il a une position assez curieuse, il dit, au fond, ce qui est très difficile, c'est de savoir ce qu'ils pensent vraiment, parce que ce qu'ils veulent, c'est exercer un pouvoir sur les autres. Leur doctrine de référence, elle reste cachée. Mais je pense que dans le domaine justement de la réflexion, la doctrine de référence ne doit pas rester cachée. Donc, à mon sens, la question que ces différents aspects de la science moderne supposent, c'est quelle relation cet agnosticisme réfléchi peut-il entretenir avec la foi ? Est-ce que la foi elle-même implique le doute ou est-ce que la foi exclut le doute ? Là, c'est un domaine dans lequel j'avoue mon incompétence.
Vous venez d'entendre la communication de Bertrand Saint-Sernin, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, intitulée « Science et athéisme » dans le cadre du colloque organisé par Jean Béchler, son confrère, ayant pour titre « Les ambiguïtés de la science ».